18h sur France Inter.
On a tenu.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline, les garçons et tout le monde. À demain, passez une bonne soirée pour nous. C'est parti. Attention à la fermeture des portes et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Pour ouvrir le bal de ce 18-20, comme tous les soirs, le journal avec Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence avec un tremblement de terre qui secoue Twitter chez nous.
C'était une blague, la ligue du LOL, mais ses membres ont fini de rire aujourd'hui. Accusés de harcèlement, leurs victimes témoignent, leurs employeurs les mettent à pied. Des élèves handicapés à l'école comme tous les autres enfants, le gouvernement a reçu aujourd'hui des propositions pour une école plus inclusive. Parmi les chantiers à mener, le statut des accompagnants de ces enfants. Les communistes lancent leur campagne européenne sur le thème des maternité menacée. La tête de liste Yann Brossa s'est rendue à Creil aujourd'hui. Des oursins mutants à Fos-sur-Mer. Les rejets toxiques de chlore des industries dans le Golfe sont désormais intégrés par les animaux. Et puis un Français champion du monde, Alexis Pinturo, décroche la médaille d'or en combiné. C'est du ski et c'est en Suède.
À 18h15, un jour dans le monde avec Ben Rhodes. Ce soir, il a été l'un des plus proches conseillers de Barack Obama. Il a été sa plume, le discours du Caire, le discours de Prague. C'est lui notamment. Il écrit sur ses 10 ans au cœur de la présidence d'avant Trump et on est ensemble dans un instant. Ce soir, nous sommes aussi sur le front syrien avec Étienne Monin. Dernière bataille contre l'État islamique. On verra ce que ça veut dire. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Nous aussi, Amélie, nous avons été scotchés par cette affaire de Ligue du LOL. On va essayer d'interroger les ressorts de ce qu'on appelle désormais la masculinité toxique. L'idée de dominer, de contrôler en brandissant après coup l'excuse de la jeunesse. Est-ce qu'il n'est pas là notre épisode spécifique MeToo au fond, ou est-ce que ce mythe de la virilité assaisonné de bêtises existe bien chez nous? 0145, la réponse est oui, hein. 24 7000. Quand les réseaux sociaux donc tournent au jeu de massacre.
Et le groupe s'était donc baptisé la Ligue du LOL. LOL comme cet acronyme pour dire que l'on plaisante. Mais là, il ne faisait rire que des journalistes, des jeunes journalistes ont harcelé pendant des années d'autres journalistes et des blogueurs, en particulier des femmes et des militantes féministes. À l'origine des révélations, le site de vérification des informations de Libération. Libération où travaillent certains membres de cette Ligue aujourd'hui. Depuis ce matin, ils sont mis à pied les uns après les autres. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Alors d'abord, qui sont ces tweetos de la Ligue du LOL?
Eh bien, cette Ligue est un groupe Facebook, en fait, créé à la fin des années 2000 par Vincent Glade, journaliste pigiste au journal Libération. Un groupe privé qui réunit aujourd'hui encore une trentaine de personnes, essentiellement des hommes plutôt jeunes, vous l'avez dit, qui travaillent à Paris dans le secteur des médias, de la publicité et de la communication. À l'origine, cette page Facebook fonctionnait comme un cercle d'amis dont les échanges n'étaient pas destinés à être rendus publics. Ses membres, comme Alexandre Hervaux, journaliste à Libération, explique qu'ils étaient là pour partager des liens et des photos, mais surtout pour faire des blagues et se moquer des gens. Les dérapages ont commencé à partir de 2009 sur Twitter, où plusieurs adhérents de la Ligue du LOL sont accusés d'avoir harcelé en bande des internautes en toute impunité pendant plusieurs années.
Alors justement, que leur projette-t-on aujourd'hui, Yann ?
Eh bien, la Ligue du LOL a pris notamment pour cible des femmes, journalistes, blogueuses et militantes féministes. Ils ont cherché à les discréditer de manière répétée à travers des commentaires déplacés, parfois des insultes anonymes allant jusqu'à l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, avec des photomontages qui tombaient parfois dans l'antisémitisme, le sexisme ou l'homophobie, et des canulars téléphoniques. Certaines victimes disent avoir été traumatisées par ce cyberharcèlement. Alors nous avons essayé de contacter aujourd'hui quelques-uns des membres de la Ligue du LOL, mais aucun n'a répondu à nos demandes d'interview. La plupart d'entre eux ont fait profil bas ces derniers jours sur les réseaux sociaux, à l'image de Vincent Glade qui a écrit sur Twitter, je cite: en créant ce groupe, j'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. Je vous dois des explications et surtout des excuses.
Merci à vous, Yann Gallic. Et retrouvez les témoignages des victimes de cette Ligue du LOL sur notre site franceinter.fr. Lui aussi harcelait des jeunes femmes dans le métro. On parle parfois pudiquement de frotteurs pour ses agressions sexuelles dans les transports publics. Cet après-midi, au tribunal de Paris, un homme a comparu, accusé de s'en être pris à plusieurs jeunes filles. Donc, des agressions désormais réprimées par les forces de l'ordre. Des tags antisémites découverts dans plusieurs endroits de la capitale. Le délégué interministériel a saisi le procureur de Paris et le préfet de police. Deux portraits de Simone Veil ont notamment été recouverts de croix gammées dans le 13e arrondissement. Et puis ce week-end, la vitrine d'un restaurant Bagelstein a aussi été taguée du mot Juden, juif en allemand. On ne sait pas encore si les auteurs de ces inscriptions sont liés. Encore des questions là aussi pour le moment. S'est-il enfui avec son butin ou a-t-il été victime du braquage de son fourgon? Un convoyeur de fonds a disparu ce matin à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Son son véhicule a été retrouvé juste après, sans les sacs de billets. Son véhicule donc a été retrouvé sans les sacs où il y avait apparemment 1 million d'euros. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme.
La même école pour tous les enfants, même quand ils souffrent d'un handicap.
On appelle cela l'école inclusive. Des propositions ont été remises aujourd'hui au ministre Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel. Le fruit de la concertation engagée en octobre dernier auprès des parents, des associations, des professionnels de l'enseignement ou des accompagnants. Des accompagnants dont le statut justement devrait bientôt changer, Adrien Taufollet.
Oui, on le savait depuis 10 jours, dès la rentrée 2019. Les AESH, accompagnants des élèves en situation de handicap, ne seront plus recrutés en contrat aidé. Ce sera désormais un CDD de 3 ans, renouvelable une fois et qui pourrait mener à un CDI. Le gouvernement promet également une meilleure formation de ses personnels et une plus grande mutualisation des effectifs. C'est la reconnaissance d'un véritable métier pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, après des années de désorganisation.
Nous sommes en train de créer un véritable service public de l'école inclusive, c'est-à-dire des accompagnants avec un statut plus fort, mieux rémunéré, parce que nous nous organisons aussi autrement, de façon à ce que la plupart d'entre eux puissent avoir un temps plein. Et c'est en ayant un temps plein qu'ils peuvent avoir une meilleure rémunération. Et le message que j'envoie à tous les AESH de France, c'est qu'il y a véritablement de nouvelles modalités qui arrivent, et ces nouvelles modalités permettront à la fois de faire plus d'heures pour être mieux payés, d'avoir des perspectives de pérennité et même de CDIsation.
Et seulement, tout cela ne répond pas à la première des revendications des AESH. Que fait-on de la précarité et des bas salaires? Demande Virginie à AESH dans l'Académie de Paris.
Les 6 années de contrat aidé, ça existe déjà. La mutualisation, ça existe déjà. La perspective de carrière, il n'y en a toujours pas. Parce que quand on nous dit que c'est la fin des contrats aidés, certes, ok, tant mieux, d'ailleurs, c'est la fin des contrats aidés, mais c'est toujours au SMIC qu'on est payé, donc la précarité persiste.
Autre source d'inquiétude, les effectifs. Le ministre annonce 80 000 accompagnants avec ce nouveau statut pour s'occuper des 166 000 élèves bénéficiant d'un accompagnement individuel ou mutualisé. Chiffre jugé insuffisant pour faire face à l'augmentation perpétuelle des demandes.
Merci beaucoup, Adrien Taufollet. L'école également au programme des débats à l'Assemblée nationale cet après-midi. Premier grand projet de loi porté par Jean-Michel Blanquer. Le texte veut rendre obligatoire l'instruction non plus à 6 ans mais à 3 ans. Il instaure également un devoir d'exemplarité des personnels. Et puis les pions, les surveillants qui préparent le concours de recrutement pourraient assurer des cours. Autre grand chantier social lancé aujourd'hui par le gouvernement, celui du système de santé. Agnès Buzyn présentera mercredi son projet de loi en Conseil des ministres. Dès aujourd'hui, elle défendait sa réforme avec le Premier ministre en Indre-et-Loire. Suppression du numerus clausus, du concours en fin de première année pour former davantage de praticiens, création de 4000 postes d'assistants médicaux pour redonner du temps de soins aux médecins et révision également de la carte hospitalière avec la création du label hôpitaux de proximité, sans chirurgie ni maternité, mais avec l'accent mis sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation. Alors justement, dans le même temps, le Parti communiste a choisi ce thème pour lancer sa campagne européenne. La tête de liste du PCF pour les élections du 26 mai prochain. Yann Brossa s'est rendu à Creil, dans l'Oise, pour débuter, je le cite, un tour de France des maternités menacées. Celle de Creil vient d'être transférée à Senlis, à une douzaine de kilomètres, au grand dam des élus locaux, des patientes et des personnels. Ils ont choisi de l'occuper en attendant une décision sur un recours déposé auprès du Conseil d'État. C'est le reportage de Laurence Perron.
Devant la maternité occupée, un petit comité d'accueil avec des drapeaux rouges frappés du logo PCF.
Mais tu t'améliores au fil des interventions, merci. C'est très bien.
J'essaye.
C'est très bien. On va voter pour toi, évidemment.
Aux côtés de Diane Brossa, la tête de liste du parti aux européennes, Marie-Hélène Bourlard, l'ouvrière du film Merci Patron de François Ruffin, numéro 2 désormais sur la liste.
Une ouvrière en plus, parce qu'il n'y en a pas.
Et moi, je suis ouvrier à l'Assemblée nationale. J'ai quitté l'école à 14 ans. Ouais, c'est ça aussi. Voilà.
Les communistes ont choisi de faire de ce combat pour la santé l'un des axes principaux de leur campagne.
On a affaire aujourd'hui à des logiques qu'on nous impose depuis maintenant des années. Ce sont des politiques d'austérité, c'est la fameuse règle des 3%. Et au nom de ces règles qui sont appliquées de manière stupide dans toute l'Europe, on nous sacrifie nos services publics. Voilà, en tout cas, belle mobilisation à vous et vous pouvez compter sur nous.
Ici, les urgences saturées sont aussi en grève. Le chef du service, Loïc Penn, a démissionné de sa fonction. Il est désormais candidat aux européennes.
Ça fait des années que les conditions de travail se dégradent. Et en plus, là, on nous explique que finalement, s'il y a un accouchement inopiné, il se fera aux urgences, dans des conditions tout à fait anormales et tout à fait inhumaines, sur un bassin de vie déjà en difficulté.
Et à l'Assemblée nationale, les communistes ont prévu de demander dans les prochains jours un moratoire sur la fermeture des maternités.
Il est 18h09 sur France Inter à l'étranger. L'Iran, toujours en lutte contre les États-Unis 40 ans après.
Les Iraniens ont célébré en masse aujourd'hui ce 40e anniversaire de la révolution islamique. La chute du Shah, 10 jours après le retour triomphal d'exil de l'ayatollah Khomeini, père fondateur de la République islamique. Aujourd'hui, dans son discours, le président Hassan Rouhani a dénoncé un complot des États-Unis, des sionistes et des États réactionnaires du Moyen-Orient contre l'Iran. Il a promis, je le cite encore, que l'ennemi n'atteindrait jamais ses objectifs démoniaques. L'Iran accusé par Israël aujourd'hui de faire pression sur le groupe Total pour boycotter l'État hébreu. Le ministre israélien de l'énergie en est persuadé. Il accuse le PDG du géant pétrolier français. Patrick Pouyanné juge dans un article du Financial Times qu'il est trop complexe d'investir en Israël malgré les gisements gaziers du pays. La correspondance à Jérusalem de Marine Vlaovic.
C'est une position tout simplement lamentable, juge Yuval Stenitz, le ministre israélien de l'énergie, estimant que les entreprises qui refusent d'investir dans l'État hébreu ont des décennies de retard et sont soumises à la tyrannie de l'Iran. Malgré l'abandon d'un important projet de Total en raison du retour des sanctions américaines contre l'Iran, les intérêts du groupe français au pays des ayatollahs sont les seules raisons valables de ce boycott inacceptable, selon Yuval Stenitz, qui promet d'envisager une réaction. L'État hébreu qui attendait cet investissement possède des champs gaziers en Méditerranée, dont un gisement géant, le Léviathan, découvert il y a 9 ans et qui devrait entrer en phase de production cette année. Une exploitation qui est désormais un élément essentiel de la puissance stratégique d'Israël, selon Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement. Jérusalem, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Retour en France, Amélie, pour une rencontre avec des oursins mutants.
Et là, c'est pas de la science-fiction, mais la découverte d'une soixantaine de chercheurs dans le golfe de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont étudié l'impact des rejets de chlore des grands sites industriels présents là-bas. Impact sur les oursins, notamment. Ces animaux marins n'en meurent plus. Isabelle Dor, ils ont intégré le chlore dans leur organisme.
Le golfe de Fos, bordé d'usines pétrochimiques, sidérurgiques, d'incinérateurs et autres terminaux méthaniers, compte 17 sites Céveso, des usines qui utilisent beaucoup de chlore. Véronique Delot, de l'Institut éco-citoyen pour la surveillance des pollutions.
Elles rejettent de l'eau chlorée, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de pomper de l'eau en mer pour leur process industriel. Elles chlorent cette eau pour éviter d'avoir des coquillages ou des algues qui se mettent dans leurs tuyaux, et elles la rejettent en mer. Alors à des concentrations faibles, mais par contre dans des volumes très importants, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 10 fois le volume total des eaux du golfe de Fos qui chaque année sont pompées et rejetées avec du chlore.
Et bien sûr, toute la faune présente dans le golfe de Fos absorbe ces rejets de chlore. Résultat, les oursins notamment ont muté. C'est ce qu'affirme le professeur Jean-Luc Boudaine, le coordinateur de cette étude.
Après une période où il y avait eu beaucoup de morts, maintenant on constate qu'ils se sont habitués à recevoir ces polluants. Ils commencent à vivre normalement malgré cette pollution. On remarque qu'il y a une mutation génétique. Ils croissent, mais avec une modification génétique. Ils grandissent moins vite ou mal. Et c'est clair que si on importait des oursins d'une zone non contaminée ici, ils mourraient très rapidement. Oui.
Prochaine étape de cette étude, l'impact éventuel des rejets de chlore sur les humains qui consomment ces oursins. Fos-sur-Mer, Isabelle Dor, France Inter.
Du ski cette saison et un Français sur la première marche du podium. Alexis Pinturo vient de remporter son premier titre de champion du monde de ski alpin. Il s'est imposé en combiné en Suède. Fabrice Rigobert, bonsoir.
Bonsoir.
C'était pas arrivé à un Français depuis 37 ans.
Hein, 37 ans et Michel Vion, le président de la Fédération française de ski, qui est actuellement présent en Suède, vice-champion olympique de la spécialité l'année passée aux Jeux de Pyeongchang, médaillé de bronze en slalom géant il y a 4 ans aux Mondiaux de Beaver Creek dans le Colorado. Alexis Pinturo a parfaitement maîtrisé cette journée stressante avec les reports des deux manches pour aller décrocher son premier titre mondial, 24e seulement de la descente, à une seconde et demie de l'Italien Dominique Paris, champion du monde du Super G. Le skieur de Courchevel a réalisé le deuxième temps de la manche de slalom pour aller chercher l'or au temps combiné des deux épreuves. Après quelques contre-performances dans les plus grands rendez-vous, malgré ses 21 succès en Coupe du Monde, Alexis Pinturo confirme à 27 ans toutes ses qualités. Il va pouvoir aborder la suite de cette compétition avec beaucoup de confiance en vue du géant vendredi et du slalom dimanche pour le dernier jour de ces mondiaux suédois.
Merci beaucoup Fabrice Rigobert. Et puis un autre coup de chapeau pour terminer pour deux Français, cette fois distingués eux aux Grammy Awards, les prestigieuses récompenses de la musique aux États-Unis. Vous avez reconnu Fabienne ? C'est Justice, le duo composé de Gaspard Auger et de Xavier de Rouenet décroche donc le du meilleur album électro pour son disque sorti l'an dernier, Woman Worldwide.
Et ben voilà, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté, voilà. Amélie, vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde.
Oui, si sous les radars ce soir, le Brexit qui pourrait profiter à la mozzarella britannique. Oui, oui, ça existe. Une princesse thaï privée d'élections législatives et puis un archipel russe envahi par les ours polaires.
On verra ça dans un instant, il sera autour de 18h37. Ce soir, nous sommes avec Ben Rhodes. Il a vécu 10 ans dans et autour du bureau ovale. Il a été notamment speechwriter et conseiller en politique étrangère de Barack Obama. Nous serons en Syrie, dernier assaut contre l'État islamique, contre l'armée de l'État islamique. En tout cas, c'est ce que dit la coalition kurdo-arabe. Et puis en deuxième heure, le téléphone sonne, on essaiera d'interroger cette masculinité autour de laquelle on tourne depuis l'éclosion de MeToo, parce que notre spécificité bien française et toute récente, ça s'appelle la Ligue du LOL, et c'est elle dont on parle, d'un mythe de la virilité, cette bonne vieille histoire de perte de pouvoir qui se traduit par une mode de jeunes gens transformés en beauf et match au 2.0. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, beaucoup de grisailles au programme demain matin encore.
Un réveil bien maussade, des nuages bas, du brouillard. On trouvera quand même quelques éclaircies vers le nord-ouest. Un beau soleil autour de la Méditerranée et en montagne. Mistral et Tramontane jusqu'à 80 km à l'heure autour de la Méditerranée. Pour les températures, de la fraîcheur, moins 3 degrés à Aurillac, moins 2 à Reims, Dijon, Bourges, moins 1 à Rouen, Rennes et Grenoble. Un petit degré à Paris, 3 à Brest, Bayonne, Toulon et tout de même 8 pour Perpignan.
Mais l'après-midi, ça ira mieux en fait.
Le soleil reviendra sur la plupart des régions, sauf entre le centre et le nord-est, où là, il faudra se contenter d'un ciel très nuageux. Les thermomètres afficheront 6 à 13 degrés de l'est vers l'océan, un peu comme aujourd'hui, et jusqu'à 17 degrés en Méditerranée.
Et sinon c'est tout. On se revoit tout à l'heure après 19h, c'est ça?
Oui,
après...
je peux vous parler de la semaine.
Comme tous les jours,
bah,
tout à l'heure. Allez, merci.